Il y a plus d'un an, j'ai reçu deux lettres, deux citations directes pour diffamation, deux procédures lancées contre moi, une en tant que personne, ça concerne ma chaîne YouTube, et une autre contre moi et contre ma société, ça concerne mon site internet, on y reviendra. À ce moment-là, je ne savais pas encore que je venais d'entrer dans une machine qui allait littéralement m'aspirer pendant 12 mois, qui allait me coûter des dizaines de milliers d'euros, une machine qui, certains matins, allait me faire douter de ce que je fais dans la vie. Aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire pas pour me plaindre, pas pour chercher votre pitié, mais parce que ce qui m'est arrivé, ça arrive chaque année en France à des dizaines de personnes, à des journalistes, à des chercheurs, à des créateurs de contenu. Et ils appellent ça des procédures Bayon. L'histoire, elle commence le 29 février 2024. Je publie une vidéo sur ma chaîne YouTube que vous avez peut-être déjà vue, ça s'appelle « Analyse du gourou Raël ». Ça, pour moi, c'est une vidéo standard. Une vidéo comme j'en fais depuis des années. C'est une analyse, c'est mesuré, il n'y a pas d'attaque personnelle, je ne fais pas des exagérations de zinzin, juste des faits. Je m'appuie sur des témoignages publics, sur des documents accessibles par Internet, et j'essaie de faire ce que je fais habituellement, c'est-à-dire de la pédagogie. Je critique les mécanismes d'influence, de manipulation, j'explique les stratégies manipulatoires, c'est ça mon métier. En tout cas, c'est ce que je fais sur Internet souvent. La vidéo sort, elle est regardée, elle circule beaucoup. D'ailleurs, elle circule partout. Ça aussi, on y reviendra. Et puis, le temps passe. Quand je dis le temps passe, c'est quelques semaines, le temps pour moi de partir en vacances. Et quand je rentre, j'ai deux enveloppes qui m'attendent chez un commissaire de justice. Les commissaires de justice, je connaissais à peine leur existence. C'est bien la première fois que je vais à leur rencontre pour récupérer du courrier. Vous savez, des enveloppes très épaisses, tellement épaisses qu'on n'a pas tellement envie de les ouvrir. Mais je vais les ouvrir. Parce que j'ai pas le choix. Dedans, deux citations directes pour diffamation publique. Je suis attaqué par Claude Vorillon d'Israël et par le mouvement raélien international, on va se dire entre vous et moi le MRI pour la vidéo, pour pas répéter à chaque fois. J'imagine d'ailleurs, et c'est que pure spéculation, que c'est le MRI qui coordonnait l'action juridique, mais bon, comme ça c'est qu'une hypothèse de ma part, ça a pas tellement d'importance. Alors je lis et je relis les documents, je suis dans la rue, devant l'espèce de cabinet du commissaire de justice. Je suis un peu immobile devant ces pages-là, parce qu'on m'attaque pour trois passages de ma vidéo, trois extraits qui sont très courts, mais peu importe, à cet instant, je réalise surtout une chose, je viens de rentrer dans un tunnel judiciaire où c'est impossible de voir la sortie. Je ne sais même pas combien de temps ça va prendre. Moi, je pense être de bonne foi, évidemment, sinon je n'aurais pas fait cette vidéo. Mais s'il y a bien quelque chose que mon avocate m'a appris au cours des dernières années, c'est que personne ne peut affirmer de façon certaine ce que va donner la fin d'une procédure, puis ce que va donner la fin d'une procédure avec les appels, puis ce que va donner la fin d'une procédure complète une fois tous les appels passés, etc. En parlant de mon avocate, je la contacte immédiatement, c'est mon premier réflexe. Elle s'appelle Héloïse Wagner, je la remercie énormément pour ce qu'elle fait pour moi et avec moi depuis des années. Vous la connaissez peut-être, elle a une chaîne YouTube de vulgarisation juridique qui est excellente, qui s'appelle 911 Avocats ou 911 Avocats. Et depuis des années, c'est elle qui défend mes droits et ceux de ma société. Donc je lui envoie tout ça, je scanne tout, je lui envoie tout, je suis plutôt paniqué. Hein. J'ai du sang-froid habituellement, mais là ça fait peur. Et quand elle me rappelle, elle me dit pas « c'est rien, t'inquiète, là ça va aller ». Elle me dit « ok, je te préviens, ça va être un combat ». Je ne peux pas te garantir l'issue de ce combat. Ça calme. J'ai beau être optimiste, ça calme. Maintenant, il faut que je vous parle de quelque chose d'important, quelque chose dont j'avais vaguement entendu parler dans ma vie, mais que j'avais jamais vraiment compris en profondeur. Les procédures Bayon. Alors attention, hein, je ne suis pas en train de dire que ce que j'ai vécu était une procédure Bayon avec certitude. Je vais bien me garder de dire ça, je ne peux pas l'affirmer juridiquement. Mais je vais vous expliquer ce que c'est. Et vous comprendrez pourquoi, par contre, émotionnellement, d'une manière complètement subjective, j'ai vécu cette année comme si c'était une procédure Bayon. Une procédure Bayon, en anglais, on appelle ça SLAP. Strategic Lawsuit Against Public Participation. C'est une action en justice qui souvent, la phrase est dingue, ne cherche même pas à gagner. Une action en justice qui ne cherche pas à gagner, ben non, parce qu'elle cherche à faire taire. Elle cherche à épuiser, elle cherche à décourager la partie adverse en vous impliquant dans une procédure judiciaire longue, complexe, coûteuse et surtout éprouvante. Et en vous faisant comprendre que parler, bah ça coûte cher. Que critiquer, ça fait mal et que la liberté d'expression, ça a un prix. Et que ce prix, bah vous allez le payer. En France, entre 2010 et 2023, il y a plus de 1000 procédures bâillons qui ont été recensées par la coalition européenne contre les SLAP. Contre des journalistes, je vous le disais tout à l'heure, mais aussi contre des chercheurs, des associations, des créateurs de contenu. Et c'est pas moi qui invente ce terme, hein. C'est l'Union européenne qui a voté en 2024 une directive anti-SLAP pour protéger, et là je les cite, les chiens de garde de la démocratie. C'est leur expression de dire il faut que tout le monde puisse parler pour que des personnes puissantes ne puissent pas les faire taire juste en manipulant l'outil juridique. C'est un peu ça qui est sous-entendu. Parce que le problème, c'est pas seulement l'argent. Le problème, c'est aussi et surtout le poids psychologique qu'il y a derrière. Le stress, l'épuisement, les nuits où tu te réveilles en pensant à l'audience, en pensant aux audiences. Parce que là, je vous fais gré de vous faire un déroulé chronologique, semaine par semaine, de ce qui s'est passé. Mais il y a eu beaucoup d'audiences différentes. Il y a des audiences relais, par exemple, au fur et à mesure de l'affaire. Et il y a tous les moments où tu te demandes, ben en fait, est-ce que ça vaut encore le coup de continuer? Et ça, je l'ai vraiment vécu, profondément. Tu te poses la question. Même si vous êtes persuadé d'avoir raison, même si vos propos, par exemple, sont sourcés, je ne vous explique pas la pile de documents, de livres de Raël, de documentaires et même de décisions judiciaires concernant le MRI, des antennes nationales du mouvement ou des anciens adeptes, que nous avions collectées avec mon équipe pour écrire la vidéo initiale. Alors même si tout repose sur des faits publics, la machine judiciaire, elle avance et elle ne regarde pas votre intention. Elle est aveugle à vos bonnes intentions. En fait, elle tourne, elle s'active, elle a des règles d'ailleurs d'activation et si elle doit broyer, ben elle va broyer. Et moi qui suis habitué à la pression, je veux dire depuis 15 ans, je suis habitué quand même à être sur scène, des fois devant plus de 5000 personnes, pendant 2 heures, je tiens ma salle, c'est du live, donc c'est de l'imprévu, en plus c'est du mentalisme sur scène, donc je marche sur un fil, c'est une grosse et énorme pression, je suis habitué à ça. Au regard de milliers de personnes devant moi, à l'imprévu, et bien là, j'ai quand même pris une claque. Parce que dans une procédure judiciaire, vous devez tout faire, vous devez répondre, à tout ce qu'on vous demande, vous devez payer régulièrement, vous devez vous justifier, vous devez attendre, parce qu'il y a des délais, vous devez recommencer, vous devez supporter, vous devez comprendre. Je veux dire, Héloïse, elle m'explique bien les choses, mais c'est pas mon quotidien, le juridique. Donc, c'est dur d'en capter parfois toutes les subtilités. Et même quand vous dormez, ça continue. Quelque part, dans un coin de votre tête, il y a une petite lumière rouge qui s'allume, et la mienne, elle ne s'éteignait jamais complètement, et elle s'appelait Claude. Parce que, on va arrêter de l'appeler Raël dans cette vidéo. À un moment donné, cet homme, c'est qu'un homme. Je veux dire, jusqu'à tant qu'il prouve le contraire scientifiquement et avec rigueur, ce n'est qu'un homme et il a un prénom. Et d'ailleurs, cet homme avec ce prénom utilise des outils très humains. Et quand il utilise l'outil juridique humain, il l'utilise au nom de Claude Vaurillon. Pendant cette année, il y a eu plusieurs phases. D'abord, j'ai eu la stupeur, les premiers jours. C'est un peu bizarre, hein. J'avais l'impression d'être un peu dans du coton, dans un brouillard. En fait, tu te dis, bah attends, j'ai juste fait mon travail. J'ai analysé des faits qui étaient publics, des témoignages qui sont déjà dans des documentaires, dans des livres, dans des médias. C'est impossible que je puisse avoir le moindre risque là-dessus. Et là, vous découvrez que ça ne suffit pas pour ne pas être attaqué. Et même si vous avez de quoi le prouver, ça prendra du temps. Et ça vous coûtera cher, vraiment cher. Ensuite, il faut construire la défense, donc rédiger des conclusions. Je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est des conclusions parce que c'est assez important et vous allez être surpris de ce qui s'est passé au tribunal. Donc il faut rassembler des pièces, les relire, les vérifier, les corriger. Évidemment, c'est pas moi qui fais ça, c'est Héloïse, mon avocate, qui fait un travail incroyable, un travail titanesque. Sans elle, je ne serais pas où j'en serais, mais je suis évidemment obligé et puis je veux participer à ça, comprendre les tenants et aboutissants, c'est très important en fait, on travaille en équipe là-dessus. Surtout que parfois, on te demande de prouver des choses qui sont absurdes. Il y a 2 choses par exemple qui m'ont marqué que je n'arrive pas à comprendre d'une manière rationnelle. La première, c'est l'une des 2 procédures. Je suis attaqué, moi et ma société, concernant mon site internet fabienolicard.fr pour diffamation, comme si c'était mon site internet fabienolicard.fr qui avait hébergé la vidéo que j'ai faite sur Claude. Sauf que ce n'est pas le cas. La vidéo, elle est sur YouTube. Alors vous dites, oui, mais peut-être que la vidéo YouTube est en lien sur le site internet. Et encore là, ça se discuterait, parce que ce serait juste un lien. Mais en plus, même pas. Mon site internet, il renvoie bien vers ma chaîne YouTube, point. Je veux dire, pas vers une vidéo en particulier. Mon site internet renvoie de la même manière vers mon compte Instagram. Donc ça n'a pas vraiment lieu d'être. Mais quand même, il va falloir l'expliquer, le rédiger, le justifier, prendre du temps, dépenser de l'énergie, dépenser des ressources financières, etc. pour dire, bah non, ça, ça n'a pas lieu d'être. Et une deuxième chose qui m'a semblé vraiment absurde, et je vais vraiment peser mes mots pour pas que ça se retourne contre moi, évidemment. Imaginons, et c'est vraiment un exercice de style pour que vous compreniez la mécanique absurde derrière, imaginons que dans une vidéo, un jour, je dise « Jean-François nous dit publiquement à toutes et à tous que boire de l'acide, c'est mauvais et qu'il ne faut pas le faire. » Et imaginez qu'au terme de plusieurs attaques, on me dit « en fait, il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit que boire de l'acide, c'est mauvais et qu'il ne faut pas le faire. » Alors toi, tu vas dire « d'accord, bah, il me semble que si, mais je veux dire, quoi qu'il arrive, de toute manière, c'est mauvais, il ne faut pas le faire, boire de l'acide. » Et qu'on te réponde en face « prouvez qu'il a déjà dit ça, sinon je vous attaque pour le fait que vous ayez dit qu'il a dit qu'il ne fallait pas le faire, que c'était mauvais de boire de l'acide. » Et même si l'humanité entière pouvait être d'accord, par exemple, sur le fait que boire de l'acide, c'est mauvais, il faut rentrer dans un jeu bizarre où tu dois démontrer que la personne l'a dit quand même, même si c'est quelque chose qui coule un peu de source. Alors je sais que c'est un peu nébuleux ce que je dis, ça ne vous donnera aucun indice sur les propos dont je parle, mais c'est pour vous faire voir une espèce de logique inversée qui semble absurde au bout d'un moment. En fait, j'avais l'impression parfois d'être dans un jeu de société qui ne s'encombrait pas de la logique. En fait, il fallait suivre des règles, point, et à chaque échange de mail, à chaque appel, à chaque document, eh bien, j'avais une pierre qui se rajoutait dans le sac que je portais sur mes épaules. Je suis pas allé aux audiences, d'ailleurs. Je suis pas allé aux audiences. Claude n'a pas daigné faire le voyage depuis le Japon où, aux dernières nouvelles, il vit des jours très heureux. Alors, j'allais pas prendre la peine non plus de me déplacer. Ce sont ses adeptes, ceux qui paient pour lui pour la construction d'une ambassade pour les Elohim depuis des années. D'ailleurs, je ne sais pas où ça en est vraiment, ce projet. J'ai pas l'impression que ça avance bien, cette histoire, mais pas de diffamation. J'en sais rien, et en vrai, je m'en fiche un peu. Mon avocate, Héloïse, y était, évidemment, et je disais tout à l'heure, j'avais l'impression que c'était le mouvement raélien international qui gérait un peu les audiences, les témoins, l'avocat, tout ça. Mais, encore une fois, il n'y a aucune preuve de ça. Hein. Si ça se trouve, c'était Claude, depuis le Japon, qui pilotait tout ça à distance. Mais ce que mon avocate a vécu sur place, et ce qu'elle m'a raconté sur l'audience la plus importante, c'est surréaliste. Vous n'êtes pas prêts. Imaginez qu'elle est debout, prête à plaider. Elle va ouvrir la bouche pour faire sa plaidoirie, et là, quelques secondes avant qu'elle ne commence, l'avocat adverse, son confrère, lui glisse ses conclusions à lui sur son pupitre à elle. Je vais vous expliquer tout à l'heure, là, dans quelques secondes, ce que c'est des conclusions, vous allez voir. Donc, quelques secondes avant sa plaidoirie. Et ensuite, alors que les juges se lèvent déjà pour sortir, pourquoi ils sortent? Pour que mon avocate puisse prendre connaissance des conclusions de la partie adverse avant sa plaidoirie. Eh bien, son confrère va lui glisser encore d'autres éléments, cette fois des nouvelles pièces pour le dossier. Alors, les conclusions, c'est quoi? Pour faire très simple, c'est la stratégie d'une des parties. Et les conclusions et les pièces qui vont avec, ça s'envoie avant. Le principe du contradictoire veut qu'on puisse connaître tout ça en amont. Et c'est d'ailleurs ce que nous avions fait, nous. On a envoyé avant toutes les conclusions de mon avocate. Donc, tous les éléments qui allaient permettre de nous défendre, on les dit avant. Ce n'est pas le jour J que la personne va découvrir ça. Entendons-nous, son confrère avait le droit de faire ça. Il avait vraiment le droit de lui donner une heure avant ou une seconde avant. Mais ça manque clairement d'élégance. Surtout qu'il y a une info que vous n'avez pas, que je vous donne que maintenant. Quelques minutes avant, l'avocat de la partie adverse demander un renvoi de l'affaire, donc que l'affaire soit renvoyée, donc qu'il n'y ait pas de plaidoirie ce jour-là. Donc on pourrait s'attendre à ce que ces conclusions, par exemple, ne soient pas prêtes non plus. Le renvoi a été refusé, et pof, il a fait popper ses conclusions. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas vraiment de la justice, c'est du théâtre. C'est une sorte de théâtre malsain, selon mon avis, non pertinent de profane qui n'y connaît rien dans le juridique. Il avait tout à fait le droit de faire ça comme ça. Mais c'est pas élégant. L'audience allait suspendue 15 minutes pour que mon avocate puisse lire en urgence les documents qu'elle vient de recevoir à la dernière seconde. Elle va adapter ou pas sa plaidoirie en fonction de ce qu'elle a lu. Elle va expliquer dans sa plaidoirie les contradictions dans les citations, les passages en gras qui changent d'une page à l'autre. On m'attaque pas toujours pour les mêmes phrases exactes, pour les mêmes mots exacts, les erreurs de minutage, le passage modifié. Elle va souligner aussi le fait que Claude et le MRI ne précisent pas d'une façon claire qui poursuit pour quel propos ? Ça paraît rien, mais c'est extrêmement important. D'une page à l'autre, il n'est pas si évident de comprendre si c'est le MRI qui m'attaque ou si c'est Claude qui m'attaque pour tel propos ou pour tel propos, d'autant plus que ces propos changent d'une page à l'autre, les minutages ne sont pas toujours les bons, les choses qui ont été mises en exergue, en gras, ne sont pas toujours les mêmes. Donc c'est pas clair, c'est pas précis. Et vous savez à quel point un mot peut changer complètement une phrase et son intention. Alors si vous êtes taquin, vous pourriez dire « bah il suffit de dire au cours de la procédure, bah, vous savez quoi, en fait, on l'attaque pour tout ce qui a été mis en gras d'une manière globale. Même si c'est pas toujours la même chose, en fait, tout ce que vous voyez en gras, c'est on l'attaque pour tous ces mots-là. » Vous seriez taquin, parce que on ne change pas les règles en cours de procédure ou pendant une plaidoirie, évidemment. C'est quand même ce qu'a proposé l'avocat de la partie adverse, l'avocat de Claude et du MRI. À un moment donné, il a dit bah, « en fait, on l'attaque pour tout ça ». Heureusement, ça marche pas comme ça. Le représentant du parquet prend la parole, puis c'est au tour de l'avocat de Claude et du MRI. Mon avocate va répondre ensuite et va faire quelques rappels. Et à la fin, les juges se retirent. Et ils vont prendre une décision qui n'arrive pas si souvent que ça. Ils décident de rendre un jugement séparé sur la question de la nullité. Vous savez pas ce que c'est ? La nullité, c'est lorsqu'on annule une procédure ou un acte juridique d'ailleurs, parce qu'il n'a pas été fait correctement. Imaginez, vous êtes en train de faire une partie de Monopoly et puis là, tout à coup, il y a quelqu'un qui dit « Attendez, mais cette carte chance-là, elle n'existe pas. C'est toi qui l'as écrit toi-même. » Bah, en justice, la nullité, c'est exactement la même chose. C'est quand un juge va regarder un acte ou un moment de la procédure et qui va dire « Ben non, ça, on ne peut pas l'utiliser comme ça. » Alors, on va dire que ça n'existe pas et même mieux, on va dire que ça n'a jamais existé d'une manière rétrospective. Pourquoi c'est possible, ça ? Parce que les règles n'ont pas été respectées. Et en justice, les règles, c'est pas du détail. Ce sont des garanties qui protègent chacun. Parfois, un juge va recevoir une demande de nullité et va se dire, avant d'aller plus loin et de juger le fond de l'affaire, je dois d'abord décider si cette partie de la procédure est valide ou non. Pour vous donner une image, c'est un peu comme si on vérifiait la stabilité d'un terrain avant de construire une maison dessus. C'est-à-dire que ça sert à rien de se lancer dans les grands travaux de la maison si le terrain n'est pas constructible à la base. Alors le tribunal, parfois, va rendre un jugement uniquement sur la question de la nullité pour dire si une étape de la procédure tient debout ou si elle tombe. Et si elle tombe, c'est peut-être toute la procédure qui va tomber en réaction en chaîne, puisque c'est « rétroactif », entre guillemets. En fait, peut-être que la procédure n'existe plus du tout, finalement, s'il y a nullité. Mais si la procédure tient debout, s'il n'y a pas nullité, si tout a été fait correctement, alors le juge revient pour juger le fond du dossier. Alors ça, pour Héloïse, c'est un très bon signe, parce qu'elle m'explique que les juges décident de rendre un jugement séparé sur la question de la nullité que quand ils pensent sérieusement que la procédure est bancale. Sinon, ils n'ont aucun intérêt à faire traîner comme ça la procédure et à rajouter ce travail-là en plus. Alors pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti à ce moment-là quelque chose qui ressemble peut-être à de l'espoir, mais on n'est jamais sûr de rien dans un procès. Avant de continuer dans la même temporalité, parlons argent, parce que c'est hyper important. Cette procédure, j'en ai déjà parlé dans la vidéo, hein, elle m'a coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros juste pour me défendre, juste pour prouver que j'avais le droit de dire ce que j'ai dit. C'est compliqué, hein. Et donc le pire, c'est que là, en tout état de cause, même si je gagne, je ne récupérerai pas cet argent. En France, il existe un article, le 800-2 du Code de procédure pénale, qui permet de demander une indemnité quand vous êtes relaxé. Mais cette indemnité, elle est plafonnée au montant de l'aide juridictionnelle, donc 468 euros. 468 euros. Et pas forcément à la charge de la personne qui a lancé la procédure, hein. Ça peut être à la charge de l'État. Chacun aura son avis sur la question, mais moi, ça me rend fou. Alors que là, en l'occurrence, j'ai dépensé plusieurs dizaines de milliers d'euros. Oui, je le dis une dernière fois, faut que ça sorte. Mais vous voyez l'idée. J'ai même pensé à l'époque, pour essayer d'avancer et de m'en sortir, de faire une cagnotte en parlant dans une vidéo pour m'aider un peu à souffler, pour pérenniser aussi la société, hein, parce qu'il y a du monde qui travaille ici. Mais j'ai jamais fait de Tipeee, j'ai jamais fait de cagnotte, j'ai jamais fait de crowdfunding. En gros, j'ai jamais fait appel aux dons. Et j'avais pas tellement envie de commencer à le faire, et encore moins pour cette raison. Mais voilà, c'est exactement le mécanisme d'une procédure bâillon, d'ailleurs. Encore une fois, je ne sais pas si la mienne en était une ou pas, mais ça se passe comme ça aussi pour une procédure bâillon. Vous pouvez gagner, par exemple, sur le fond, vous pouvez même avoir raison, Vous pouvez aussi obtenir la nullité de la procédure, mais vous perdez quand même. Parce que l'argent, vous le reverrez jamais. Parce que le stress, vous l'avez vécu. C'est pas rattrapable, les nuits blanches. Elles sont passées, elles sont derrière vous. Toute l'énergie que vous avez investie là-dedans, elle revient pas. Et le message, il est très clair en même temps. Il y a un petit message, moi, je trouve, sous-jacent. Ça s'appelle « La prochaine fois, tais-toi ». C'est d'autant plus clair que j'ai eu des commentaires sous la vidéo qui parle de Claude, celle d'origine, qui laisse à penser ou à croire que peut-être, oui, j'en fais des caisses, je veux pas qu'on dise que j'affirme des choses, donc je disais que ça me donnait l'impression que peut-être des personnes pro-Claude étaient au courant très tôt de la procédure et se délectaient de, je cite de mémoire, ce qui allait me tomber dessus bientôt. Pourquoi je cite de mémoire? Parce que tout comme certaines vidéos YouTube faites par des personnes très enclines à défendre Claude en me contredisant, évidemment, les commentaires les plus virulents ont disparu avant que je reçoive les courriers officiels. Et j'ai lu sur Internet que les vidéos en question dont je vous parle à l'instant, désormais disponibles à nouveau d'ailleurs, avaient disparu suite à un problème technique. Moi, j'y crois volontiers. C'est juste que les hasards de la vie sont toujours surprenants. 22 septembre 2025, je reçois le jugement. Je vous cache pas que je tourne un petit peu autour pendant quelques secondes. Je l'ouvre, je le lis, lentement. Et là, cette discordance étant source d'incertitude quant à l'étendue des propos poursuivis, la citation ne permet pas au prévenu, moi, de connaître dès la lecture et sans équivoque les faits dont il a exclusivement à répondre. Je relis, encore, c'est exactement ce que Héloïse avait défendu. Et puis plus bas, il y a de marqué, la citation doit de ce fait être déclarée nulle. Et un peu plus loin, l'action publique est prescrite. Tout s'arrête net. La procédure s'effondre. On attend évidemment que des délais légaux, par exemple le fait de pouvoir faire appel ou pas, passent. Alors je vous cache pas, il y a une grande partie de moi qui aurait voulu aller au bout. Genre vraiment. J'étais prêt pour ça et nous avions les preuves pour ça. Défendre mes propos ligne par ligne, montrer que tout était sourcé, vérifiable et surtout légitime. Il y avait quelque chose d'important, c'est que ça aurait même fait une jurisprudence ensuite pour toutes les personnes voulant reprendre les choses que j'avais pu dire moi. Mais en justice, il y a un ordre. Et on ne juge pas le fond d'un dossier quand la procédure elle-même est bancale. Et là, elle l'était profondément. J'arrive pas à savoir comment ils ont pu mal faire à ce point. Quand je dis « ils », je parle surtout de l'avocat de Claude et du MRI. Parce que ce qui fait que la procédure était bancale, ce qui fait qu'il y a nullité, on dirait des fautes d'inattention, des fautes d'étourderie, c'est quand même pas rien de reprocher de la diffamation à quelqu'un. C'est quand même pas compliqué de mettre le bon minutage, de répéter bien les mêmes phrases mot à mot. Alors je comprends pas, je prête à ces personnes une intelligence. Alors c'est pas compatible cette intelligence avec ces erreurs toutes bêtes. Est-ce qu'ils voulaient éviter que l'affaire aille jusqu'au bout du bout? Est-ce qu'ils voulaient éviter que ça aille jusqu'à trancher sur qui avait raison ou pas, sur ce que je disais dans la vidéo? C'est impossible de le savoir. Donc c'est pas la peine de spéculer là-dessus. Et je ne spéculerai pas là-dessus. C'est juste étonnant que leur avocat, un professionnel, fasse ce genre de bourde. Ça me rappelle l'affaire qu'avait eu Babor il y a quelques années contre David Michigan. Il avait fait, je crois, 3 vidéos à ce sujet. Au début de ma propre affaire, j'ai même contacté Babor pour lui en parler. Et puis, j'hésitais à le faire intervenir dans cette vidéo d'ailleurs. Mais ces vidéos à lui de l'époque, elles m'ont quand même pas mal rassuré sur ce que j'ai vécu. Et ça me conforte d'ailleurs dans la nécessité de vous faire ce témoignage à mon tour. Eh bien, pour Babor aussi, la procédure que David Michigan avait lancée contre lui avait été annulée. Je fais un raccourci en disant ça. Mais ils n'avaient pas pu trancher sur le fond. Et je sais que ça avait frustré énormément Babor lui aussi, qu'il aurait bien aimé, en fait, que ça aille jusqu'au bout, ça. Alors voilà, j'ai gagné. En tout cas, j'ai pas perdu. Enfin, j'ai gagné juridiquement par la prononciation de la nullité. C'est comme si le tribunal avait dit « Stop !» En fait, tout ça, ça n'a pas existé. On oublie, parce que ça ne devrait pas exister comme ça. Mais dans la vraie vie, c'est passé quoi? J'ai perdu des dizaines de milliers d'euros, j'ai perdu un an d'énergie, j'ai perdu du sommeil, j'ai perdu de la joie, j'ai perdu aussi parfois certaines motivations à dénoncer des choses en manipulation, des choses que je vois, des choses que je pourrais critiquer. Alors on gagne en un sens, mais on perd des choses quand même sur le parcours. Et puis il faut que je vous parle de quelque chose d'important concernant Claude et le MRI. Mon cas n'est pas un cas isolé, pas du tout. Claude Vorillon, alias Raël, le mouvement raélien international et les différentes antennes nationales du mouvement, ils ont un historique avec la justice. Un long historique qu'a référencé et documenté mon avocate à l'époque et elle m'en a fait voir qu'une seule petite partie. Je ne vais pas vous faire la liste exhaustive, même si en interne, on a commencé et ça fait un long tableau Excel. Mais voici quelques exemples publics et documentés. Au Québec, en 2004, la journaliste Brigitte McCann a infiltré le mouvement pendant des mois. Elle a publié ensuite une série de reportages critiques et un livre. La réaction du mouvement, des tentatives d'intimidation lors d'un salon du livre et surtout une requête à la Cour supérieure du Québec pour faire interdire tout reportage humiliant ou dérisoire à leur sujet. La requête a été rejetée. En France, il y aurait beaucoup de choses à citer, mais il y a plusieurs procédures pour diffamation ou injure qui ont été lancées contre des journalistes, contre des auteurs, contre des personnalités, des médias. Certaines ont abouti, d'autres non. Mais le schéma reste toujours le même. Critiquer le mouvement ou Claude, ça se paye cher. Aujourd'hui, Lydia Adjara, une ancienne adepte qui témoigne publiquement, vous l'avez sûrement déjà vu sur Legend ou dans Click par exemple, elle a été attaquée en justice par Claude pour injure publique. En septembre 2025, en même temps que mon affaire, le tribunal a relaxé Lydia Adjara, estimant que les propos relevaient de la liberté d'expression. Mais elle a quand même vécu toute cette procédure. Et c'est pas fini pour elle. Il y a une autre procédure en diffamation contre elle qui avait aussi été lancée après l'apparition d'un livre en janvier dans lequel elle dénonçait les abus sexuels. C'est son témoignage, c'est ce qu'elle affirme. Et toujours depuis le Japon, Claude l'attaque donc dans les tribunaux français. En novembre 2025, au moment où j'écris cette vidéo, Lydia a déposé une plainte pour viol, viol par instigation, acte de torture et abus de faiblesse contre Raël et deux évêques du mouvement. Des membres du mouvement raélien, au moins à l'époque des faits donc. Les faits semblent prescrits, mais elle espère, selon les déclarations de son avocate, que d'autres victimes vont se manifester pour faire jouer, je cite, « la prescription glissante ». Je m'y connais pas plus sur le terrain juridique, je souhaite donc juste beaucoup de courage à Lydia pour les combats qu'elle mène en ce moment. Il y a un autre truc un peu fou que j'ai envie de vous partager. Dans un article du Centre d'information sur les croyances de Suisse romande, article publié en 2024, on peut lire qu'une personne qui a assisté à une rencontre raélienne en Suisse a observé des membres qui regardaient ma vidéo et probablement une vidéo contradictoire d'un adepte du Claude, sûrement les vidéos que j'avais vues, qui avaient disparu, etc., lors de leur rassemblement ensemble. Ma vidéo, celle pour laquelle j'ai été attaqué. Ils la regardent, ils en parlent entre eux, ils viennent, ils commentent, ils lancent des procédures. Ça me fait quoi de savoir ça? Rien, je sais pas. À la limite, c'est étrange, et en même temps, peut-être que quelque part, ça veut dire quelque chose. Je veux dire, les gens qui croient que Claude est allé sur une autre planète, qu'il a rencontré Jésus, entre autres, ces gens qui croient en l'existence du message des Elohim sans preuve tangible, ces personnes qui financent Claude, ce sont pas des gens si étranges que ça. Hein. J'en ai rencontré, hein. Ce sont pas des illuminés. Pourtant, ils vont tout faire, toujours, pour ne pas avoir à remettre un jour en cause des dizaines d'années de croyances. La dissonance cognitive, elle est dure sinon. Si je vous raconte tout ça aujourd'hui, c'est pas pour refermer un chapitre désagréable, c'est pas pour me plaindre, c'est pas pour demander votre pitié, je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est pas ça. Je vous raconte ça parce que ça dépasse mon cas, parce qu'il faut témoigner en fait. Parce qu'il y a des dizaines de créateurs, de journalistes, de chercheurs qui vivent la même chose chaque année sur d'autres sujets, hein, avec d'autres personnes. Et beaucoup n'ont pas les moyens de se défendre. Beaucoup abandonnent, beaucoup se taisent. Parce que la liberté d'expression, c'est pas un acquis, c'est pas gratuit, c'est pas évident. La liberté d'expression, ça se défend, ça se pense, ça s'exerce et parfois, ça coûte beaucoup d'une manière immatérielle ou matérielle. Mais cette année écoulée, ça m'a aussi appris quelque chose. Ça m'a appris qu'on peut tenir. Que c'est pas facile, que c'est pas sans douleur, qu'on perd des choses en cours de route, mais on peut tenir, et peut-être même on doit tenir. Et vous savez ce qui m'a aidé à tenir aussi? C'est complètement paradoxal, et je vous assure que c'est vrai, c'est la création. Pendant cette année difficile, j'ai encore plus écrit de la fiction. J'ai imaginé, J'ai rêvé des choses, sans dire que c'est la vérité. On peut aussi imaginer de la fiction et la présenter comme telle. Alors j'ai encore plus créé parce que c'est mon ancrage. C'est ça qui me maintient debout, c'est ce qui donne du sens. J'ai notamment beaucoup travaillé sur ma série de livres Un peu type dont vous êtes le héros. Si vous me suivez, vous savez peut-être que c'est un projet qui me tient à cœur. Ce sont des aventures où vous êtes le personnage principal et vous avez des choix à faire à la fin de chaque chapitre. Il y a toujours 350 paragraphes et à chaque fin de paragraphe, vous faites un choix, ça vous envoie ailleurs et ça a un impact sur l'histoire. Il y a des énigmes à résoudre, il y a tout un univers à explorer. D'ailleurs, dans le tome 2, la confrérie de Nuada, vous êtes un moment dans la cité d'Arvorenne et vous allez faire ce que vous voulez dans la cité. C'est presque comme un jeu vidéo. Et suivant où vous vous baladez, je vous spoil un truc dont j'avais jamais parlé avant cette vidéo. Au détour d'une rue d'Arvorenne, vous risquez de croiser un personnage un peu lunaire qui prétend des choses et qui vous rappellera peut-être quelqu'un. Vous savez pourquoi je vous le dis? Parce qu'il y a peut-être une chasse au trésor qui est cachée dans cette zone, dans le livre. Et c'est une vraie chasse au trésor que tout le monde peut réellement gagner. D'ailleurs, il y a quelques dizaines de personnes qui l'ont déjà gagné et donc qui ont déjà reçu réellement quelque chose chez eux. Alors si vous voulez soutenir un travail indépendant, un créateur qui a refusé de se taire, qui continue d'analyser, de décortiquer, de transmettre et de créer, tous les liens sont dans la description. Je ne demande rien évidemment, c'est pas une cagnotte déguisée, c'est vraiment trois livres qui devraient vous plaire. Là, il y a Les Entrailles du Temps qui vient juste de sortir. Vous pouvez commencer directement par lui, vous n'êtes pas obligé de faire L'Arbre des 4 saisons, puis La Confrérie de Nuada, puis Les Entrailles du Temps. Donc c'est pas directement lié à la vidéo, mais si vous voulez faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire vivre trois aventures de fiction interactive vraiment cool où j'ai mis tout mon cœur et soutenir mon travail par la même occasion, vous avez tout chez votre libraire, dans les grandes enseignes habituelles, Fnac, Amazon, Cultura, etc. Ça peut faire un très beau cadeau de Noël. Et si vous vous dites « Waouh, il ose placer ses livres dans cette vidéo », alors réécoutez cette vidéo. Il y a des événements et des choses que j'ai dit dans la vidéo qui devraient vous choquer beaucoup plus que le fait d'avoir parlé de mes livres. Voilà, alors qu'est-ce qui reste? Un an de procédure, du stress, de l'épuisement, des doutes, une victoire juridiquement parlant, une défaite humaine et financière, parce que quand vous gagnez, vous perdez quand même. Cette phrase, j'insiste dessus, mais parce qu'elle est vraie, mais je suis toujours là. Et vous vous posez peut-être la question de cette vidéo que j'ai publiée le 29 février 2024. Est-ce qu'elle existe toujours? Elle est toujours en ligne. Vous pouvez encore la regarder. Il n'y a pas un seul mot qui a été supprimé. Parce qu'au final, ils n'ont pas réussi à me faire taire. Est-ce que maintenant, connaissant tout ce qui s'est passé cette année, j'aurais fait cette vidéo si je l'avais su à l'avance? Je pense que oui. Parce que l'analyse, c'est mon métier, surtout quand il y a des enjeux aussi importants. Parce que la pédagogie, c'est ma passion. Parce que la liberté d'expression, c'est un combat. Et parce que si on se tait par peur ou par confort, pour pas que la vidéo elle soit strikée, pour pas qu'on se prenne une procédure comme ça, etc., alors ils ont déjà gagné. Merci, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, d'avoir traversé cette année avec moi sans même savoir ce qui se passait en coulisses. Merci d'être là dans les moments faciles et surtout dans les moments comme celui-là. Les moments où on doute un peu, les moments où on fatigue un peu, les moments où on se demande « Est-ce que ça vaut encore le coup? Est-ce que je ferais pas mieux de faire des casse-têtes et puis c'est tout ?» Aujourd'hui, j'ai la réponse. Ça vaut le coup. On continue, on avance, on baisse pas les yeux, on se tait pas et surtout, on reste libre. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, si vous les fêtez et si vous ne repassez pas sur la chaîne d'ici là. Je m'appelle toujours Fabien Licard. À très bientôt. Ciao.